Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon. Cette semaine, une émission qui fait du bien, une nouvelle capsule qui oublie les esprits chagrins pour nous plonger dans le temps avec la photographie, entre autres. Pour notre première invitée, nous recevons Marianne Rigaud-Roya. Elle est commissaire d'exposition pour le Musée des Confluences. Nous avons évoqué la figure du photojournaliste Marc Riboud à l'honneur du Musée des Confluences avec 100 clichés pour 100 ans. En effet, Marc Riboud est né à Saint-Genis-Laval en 1926. Nous avons vu en avant-première cette exposition que l'on vous recommande chaudement. Gaëlle évoquera l'exposition De la nature au Musée des Beaux-Arts de Grenoble. Guillaume nous fera découvrir les concerts du mois de mars à l'épicerie moderne. Et bien entendu, nos Gédéon, nos coups de cœur du moment. Nous débutons avec un sujet au cœur de l'exposition Marc Riboud, avec pour nous faire cette visite, Marianne Rigaud-Roya, commissaire d'exposition pour le Musée des Confluences.
Une autre image sur le qui évoque la guerre et le cri révolutionnaire et qui est emblématique du cri révolutionnaire, c'est celle-ci, la manifestation de soutien au Vietnam. Alors il disait de cette image qu'il n'était pas forcément au premier abord très content de la composition. Quand il la regarde dans le détail, il raconte que le point étant fait sur ce personnage-là, il aurait préféré peut-être qu'elle soit sur celui-ci, le visage coupé. Et finalement, cette image est aussi iconique, devient iconique, parce que c'est vrai que la force de ce bras, le muscle qu'on voit sur le poignet, le point qui termine cette ligne oblique, le cri du personnage, on est dans le cri révolutionnaire dans toute sa splendeur, entre guillemets. Et cette image est devenue vraiment aussi très, très emblématique. Il y a aussi des tirages dans la sélection qui ont été très peu, voire inédits, notamment celui-ci, Les Rameurs. On a une dizaine de tirages qui n'ont pas été tirés du tout, voire très très rarement. On n'a vraiment pas sorti, l'association des amis Marc Riboud a souhaité aussi sortir des sentiers battus et montrer d'autres typologies d'images. Et donc on en a une dizaine comme ça, donc c'est intéressant de montrer ça au public. L'idée de l'exposition, c'est aussi de rentrer dans ce rythme qui est celui de Marc Riboud, la flânerie, la lenteur, et c'est cette lenteur qui lui permet d'observer correctement, d'observer dans le détail et de permettre la rencontre. On a une image intéressante ici, deux portraits de femmes. On est en Chine, d'un côté dans un train, une femme dans un long voyage jusqu'à Canton, une femme qui a une posture presque de Madone, qui épouse la forme du siège, son visage, tout ça dans l'improvisation. Jamais Marc Riboud n'intervient dans ses photos, sauf quand on lui commande un sujet. En l'occurrence, on en a une dans la sélection, qui est une commande, qui est le nu dans le miroir à gauche. Donc il a en effet eu une commande de nu par un journal. Il a composé toute l'image, le miroir cassé, la jeune femme dans le miroir, le livre, la petite statuette, tout ça. Il a composé son image jusqu'à ce que la femme prenne une pose naturelle qu'elle avait envie de prendre et que le chat intervienne dans l'image et prenne lui aussi une pose lascive. Le hasard de la composition aussi. Cette image des dockers est aussi assez étonnante. Il a choisi ici un cadre très serré sur les visages, sur la foule. Il se positionnait, tout l'art du photographe, c'est la position, vous l'avez compris, le positionnement, mais dans une manifestation, et on le voyait en Algérie aussi, la question est de se mettre en amont de tout le monde, de mettre en amont du défilé. Là, il photographie cette foule avec ce premier plan et ces deux visages à gauche et à droite qui forment comme une oblique, qui mettent encore en plus en avant ce visage de l'homme qui est au centre. Et il laisse déborder la foule de son cadre. Et tout ça rend la colère de ces dockers encore plus prégnante, encore plus forte, encore plus visible. Les photographes aiment se photographier soi-même, eux-mêmes. Et ils se photographient sans le savoir souvent eux-mêmes. Et cette petite photo du garçon sur le pont Galata, en Turquie, être l'image, pourrait être l'image dans la tête de Marc Ribou, de lui, jeune, rêvant d'ailleurs. Voilà. La société Fuji propose pour la première fois, donc c'est la première fois que Marc Ribou photographie, un rallye de photographes. Donc il emmène des dizaines et des dizaines de photographes dans un environnement volcanique, les montagnes au-dessus de Tokyo, et ils invitent les mannequins, et voilà, les photographes photographient les mannequins dans cet environnement. Et Marc Ribou, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il photographie les photographes. Il photographie l'ensemble, cette troupe de photographes, mais il arrive quand même à attraper une pose formidable de cette mannequin. Voilà, donc ça, c'est toute la distance qu'arrive à mettre et que cherche à mettre Marc Ribou dans ses images. Un peu le coup de l'arroseur arrosé, en l'occurrence, là, mais la distance et le regard, la bonne distance, c'était toujours son souci principal. Une image étonnante qu'on n'arrive pas à s'expliquer d'un point de vue physique, parce qu'on voit ce plongeon, on espère que le plongeur est toujours vivant après son plongeon, mais on a le sentiment qu'il va plonger dans une eau de 10 cm. Donc là, évidemment, il y a un effet, sans doute, Thomas pourra peut-être nous le confirmer, mais il y a un gros effet d'effet tout à fait naturel en photographie, mais d'effet de profondeur qui fait qu'on a le sentiment que le plongeur est juste au-dessus des petits-enfants, mais il est sans doute à une distance différente qui fait qu'on ne voit pas dans quoi il va plonger. Cette image, elle est emblématique du travail sur l'instant que Marc Ribou, et sur l'élégance et sur d'avoir réussi à attraper ce vol, est tout simplement un miracle de la photographie. Et voilà, la photographie, sa première publication. La photo qui a été l'objet de sa première publication en 1953 dans le magazine Life. Donc il est à Paris depuis quelques temps, il photographie Paris et Henri Cartier-Bresson lui donne un rouleau et lui dit « Tiens, il y a la Tour Eiffel qui se repeint, va faire un tour là-bas ». Il y va. Au préalable, Henri Cartier-Bresson lui a souvent dit, donc c'est la composition qui compte, mais il lui a souvent dit « Essaye de faire comme les peintres de la Renaissance, renverse ton image quand tu composes, renverse ton image ». C'est ce qu'Henri Cartier-Bresson faisait, c'était installer un miroir qui inversait l'image dans le viseur. Donc, Marc Ribou part sur la Tour Eiffel, il monte, il voit ce peintre, et quand on regarde la planche contact, il n'y a que cette image de ce peintre. Donc il a pris la photo, enfin je veux dire, il y a des images de la Tour Eiffel, mais ce peintre n'existe que sur un cliché, celui-ci. Donc c'est une photo, il ne s'est pas acharné à en faire 10, c'est celle-ci qu'il a réussi à faire tout de suite. Et quand il a mis l'œil dans le viseur, il a eu comme un vertige, parce qu'à la fois il voyait un gars qui était donc renversé, mais qui en plus tenait sur une jambe, avec un, qu'on ne peut pas nier, à la fois à la Humphrey Bogart ou à la Charlot, enfin il y a quelque chose de magique dans cette posture, voilà, c'est mystérieux. Il joue, il sait qu'il est photographié, on ne sait pas s'il sait, mais en tout cas L'image est là et elle fera le tour du monde et elle sera sa première publication. Alors, il est arrivé dans les montagnes jaunes grâce à Zhao Wuqi, son ami peintre, qui lui a expliqué « je peux pas te raconter, vas-y », qui lui a dit « il faut que tu y ailles ». Donc, cette région est une région ce sont des paysages qui ont beaucoup inspiré les peintres, les vieux peintres chinois, depuis des siècles et des siècles. Ils venaient dans cette région qui a la particularité d'être très vantée et qui change de paysage, qui offre à chaque seconde des paysages différents où la brume va et vient. Le guide de Marc Ribou, pour l'anecdote, lui disait « Ah, c'est bon, viens, on y va, il y a du soleil ». Et Marc lui disait « Mais non, c'est pas du soleil que je veux, c'est de la brume ». Et lui, ce qu'il aimait, c'est ce hasard que le vent lui apportait, les éléments, d'une image qui sans cesse change avec cette brume évanescente, ces paysages, et pour y aller c'était tout un périple, et ces cinq sens étaient aux aguets, c'était l'odeur des pins, c'était la marche, c'était tout un ensemble de choses qui fait que de 1983, pendant 10 ans, il est venu, revenu, il a refréquenté ces endroits parce qu'il était vraiment en pleine... Là, il était à son comble du bonheur, du plaisir visuel, qui est vraiment au cœur de son travail. Et pour ces images dans les montagnes jaunes, il était avec une pellicule couleur. Ce qui l'intéressait, c'est de travailler la couleur dans ce noir et blanc, dans ce monochrome que rendaient ces montagnes qui disparaissaient derrière les brumes. Donc on le sent très peu sur cette première image, enfin cette image du milieu. On sent un tout petit peu de brun dans le haut de la montagne centrale, et on le sent plus sur cette image-là, puisque les couleurs changent autant que, en même temps que le vent, en même temps que le soleil arrive, perce. Donc on est dans des... Il travaillait là, j'imagine que le travail avec le tireur devait être au labo, devait être très particulier aussi, pour arriver à sortir la bonne couleur et le bon niveau de gris. Vous l'avez compris, c'est un grand photographe qui a assisté, témoigné des grands événements de la seconde moitié du XXe siècle. Il a une renommée internationale. Son travail sur la Chine est important et très important. Et comme le disait Catherine, en effet, les conflits, les guerres qu'il a pu, ou les échos de la guerre qu'il a pu constater, photographier, dont il a pu témoigner, nous renvoient aujourd'hui à notre propre actualité. Il aimait l'actualité, mais il n'en était pas féru. Ce n'était pas un photographe d'actualité, c'était un photographe avant tout de l'humain. Dans cette exposition, on souhaite que les jeunes générations, notre public familial, apprennent, regardent différemment, prennent dans cette visite déjà un autre rythme que celui de nos expositions temporaires qui sont très riches. Là, on a de l'image à voir et on essaye de donner le rythme de Marc Riboud, d'être dans cette lenteur et peut-être il nous apprend à travers cette petite sélection à regarder différemment l'image, à regarder une image fixe et à la composer et à la recevoir différemment de toutes les images qui nous assaillent.
L'exposition Marc Riboud, 100 photographies pour 100 ans, est à voir jusqu'au 31 décembre 2023. On vous la recommande, on a adoré. Gaëlle, cette semaine, t'es pas ton conduit à Grenoble pour l'exposition De la nature, une carte blanche à 4 artistes contemporains au Musée des Beaux-Arts de Grenoble. On t'écoute.
Tout à fait. De la nature, sachez que ce n'est pas une énième exposition sur la nature qui jouerait de l'actualité ou sur un effet d'annonce de circonstances. Guy Tosato, sémillant directeur du Musée de Grenoble depuis 20 ans, signale que le musée n'a pas attendu que Grenoble soit en 2022 capitale verte de la culture pour monter ce projet. Il insiste également, les artistes présentés questionnent la thématique de la nature depuis leur début. Le commissariat d'exposition s'organise autour d'un tandem, Guy Tosato et Sophie Bernard, conservatrice en chef chargée de l'art moderne et contemporain. Les 4 plasticiens invités ont tous bénéficié d'une exposition individuelle au sein du musée entre 2008 et 2016. Le français Philippe Cognier, seul peintre de la sélection, l'espagnol Cristina Iglesias, l'allemand Wolfgang Leib, à ce titre je me souviens de son exposition en 2008 déjà, et l'italien Giuseppe Pennone. Les 4 expositions cheminent de concert, mais peuvent également être appréhendées comme 4 propositions monographiques. Guy Tosato souligne pas de confrontation, mais 4 regards qui se succèdent et s'emboîtent autour d'un fil conducteur, le cycle des saisons. L'automne avec les fleurs fanées de Philippe Cognier, l'hiver avec l'univers froid et blanc de Cristina Iglesias, le printemps avec le pollen de Wolfgang Leib, et l'été avec la chlorophylle de Giuseppe Pennone. Philippe Cognier, célèbre pour ses vues urbaines restituées avec de la peinture à l'encaustique, utilise ici le même procédé, soit des pigments mêlés à la cire d'abeille que l'artiste fond à demi avec un fer chaud. Sous l'action de la chaleur, le rendu ainsi liquéfié offre d'incroyables effets de fondu, d'images troublées, dans un va-et-vient d'apparition et de disparition. Des amaryllis rouges, blanches et des tulipes jaunes composent sa série consacrée aux fleurs. Les formes stylisées, vivement colorées, se déploient amplement et la matérialité de l'encaustique témoigne de la vitalité de la nature. La nature, plus instinctive et sauvage, s'incarne dans la série « Broussailles et savanes » où des transpositions d'arbres et de forêts suggèrent des représentations qui se dissipent, se dissolvent, s'estompent, puis se révèlent. Cette approche vient contrarier la vision du spectateur, en fait, pour mieux l'interpeller. On ne cesse de se rapprocher, de s'éloigner des œuvres afin d'affiner sa vision, afin de saisir ce mouvement de présence et d'absence de la nature. Absence ou effondrement, également évoqué dans la série consacrée au Château de Sable, une référence au registre des vanités. En effet, quoi de plus poreux que le sable ? Avec Christina Iglesias, on entre dans l'œuvre d'art. Chambre minérale humide, à mi-chemin entre gigantesque sculpture et installation immersive, a été spécifiquement réalisée pour le musée de Grenoble. Le spectateur évolue dans une grotte reconstituée. L'expérience est tout à la fois visuelle, tactile et sonore, car on entend l'eau qui suinte des parois. Du béton vient circonscrire cette grotte. Question : comment s'inscrivent dans la nature les constructions en béton, en résine, en fibre de verre ou en acier inoxydable ? Christina Iglesias pointe ici le débat entre nature et culture. En vis-à-vis, l'artiste expose une série intitulée « Études de grotte ». Les 24 planches qui la constituent ont été réalisées avec de l'acide sur sérigraphie, sur plaque de cuivre. Quand l'acide mord abondamment le support, les effets colorés en vert de gris sont saisissants. Wolfgang Leib, passionné par l'Inde et les textes bouddhiques, expose une sculpture ovoïde en granit, c'est Brahmanda, l'œuf cosmique, l'œuf de l'univers qui pèse 2 tonnes. Sa démarche artistique, empreinte d'une puissante spiritualité, utilise le pollen de façon récurrente. Surnommé à ce titre le maître des pollens, Wolfgang Leib collecte ce matériau de prédilection depuis 1977. Selon lui, le pollen est le commencement de tout et contient tout en puissance. Demeuré longuement face à son poignant carré de pollen, l'esprit ne cesse de s'enfoncer dans ce champ installé à même le sol, tandis que le regard est hypnotisé par le jaune incandescent et magnétique du pollen. Le propos de Giuseppe Pennon, le quatrième plasticien que j'avais récemment chroniqué pour son exposition en automne dernier au couvent de la Tourette, est axé sur un énergique corps à corps avec la nature. On assiste à la fusion littérale entre l'homme et la nature avec une série de sculptures humaines jaillissant de terre en pot, telles des plantes. La présence de plantes réelles vient parfaire la proposition artistique. En poussant, elles viennent s'entortiller autour des sculptures. Nommée « geste végétal », l'œuvre révèle l'union, voire la communion entre l'homme et la nature. L'espace de Giuseppe Pennon expose également ces fameux frottages de feuilles. Un ensemble de 5 toiles avec pigment végétal et encre sur toile de lin qui évoque la peau de la nature. La fascination de Giuseppe Pennon pour la nature est quasiment charnelle. Hymne à la nature, l'exposition témoigne combien les 4 plasticiens, en plus de questionner le rapport de l'humain à la nature, rendent hommage aux matériaux naturels dans leur création, en utilisant tour à tour la cire d'abeille, l'eau, le pollen et la chlorophylle. Dépêchez-vous, l'exposition est à voir jusqu'au 19 mars. Plus d'informations sur museedegrenoble.fr, site sur lequel je vous invite à également écouter les podcasts des 4 artistes exposés.
Merci beaucoup Gaëlle. Effectivement, tu nous donnes envie de la découvrir. Je crois que je vais faire spécialement un petit voyage à Grenoble. C'est très exotique Grenoble d'ailleurs. Vous devriez y aller, il y a plein de montagnes autour, c'est formidable. Guillaume, cette semaine, on évoque la programmation de l'épicerie moderne une nouvelle fois. Je crois que c'est un lieu que tu apprécies tout particulièrement. Et au mois de mars, il y aura des grosses guitares, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. C'est un très beau lieu, effectivement. Alors, même si c'est un petit peu en dehors de Lyon, mais enfin, maintenant, il y a un bus qui vous y amène et qui vous ramène à Lyon sans aucun problème. Donc, effectivement, le mois de mars, il va y avoir différents concerts et notamment des concerts qui vont faire un petit peu de bruit. Le premier, c'est une soirée le vendredi 3 mars avec deux groupes français, un groupe bordelais et un groupe clermontois. Donc voilà, une espèce de combat de guitare avec Year of, of No Light, pardon, qui vient de Bordeaux, qui fête ses 20 ans d'existence et qui fait de la musique instrumentale assez bruyante avec beaucoup de Larsen et beaucoup de guitare et de pédales d'effet. Et c'est vraiment un groupe passionnant à voir sur scène. On s'en prend plein les oreilles, surtout voilà, la décharge électrique.
Il faut penser à prendre ses petits bouchons.
Oui, mais il y a des bouchons à l'entrée de l'épicerie, il n'y a pas de souci. Mais enfin, encore une fois, voilà, en France, vous savez qu'il y a des lois, il y a des limiteurs de son, ce qui fait que ce n'est plus les années 90 hein, au Transborder où il y avait des groupes qui, quand on sortait, on était quasi sourds. Maintenant, tout ça est un petit peu terminé. Donc, Year of No Light, qui vient de Bordeaux, et en première partie, Untitled With Drums, donc des Clermontois qui sont clairement inspirés par le groupe bordelais. D'ailleurs, leur disque est parrainé, on va dire, par celui-ci. Donc ça, c'est le vendredi 4 mars, pardon, le vendredi 3 mars à 20h30. Et puis, bien sûr, alors là, peut-être encore plus fort, je ne sais pas, un groupe qui s'appelle Fuzz. Alors peut-être que ça ne parle pas au grand public, mais Fuzz, c'est un conglomérat de d'artistes, ils sont trois, c'est un trio, avec un guitariste qui s'appelle Ty Siegel. Mais dans ce groupe-là, il joue de la batterie, et Fuzz, c'est un groupe qui joue très très fort, c'est du rock, c'est psyché, il est assez barré quand même, ce cher Ty Siegel. Il a fait à peu près, il doit avoir une trentaine d'années, peut-être 35 ans, et il a fait une trentaine de disques avec plein de formations différentes, ce groupe Fuzz, et puis sous son nom, et puis avec plein d'autres gens. Et vraiment, c'est un artiste assez exceptionnel. Et en première partie, il y aura un jeune groupe lyonnais qui s'appelle Salo. Salo, S-A-L-O. Alors tiens, c'est intéressant, puisque je crois qu'il y a le festival Pasolini en ce moment à l'Institut Lumière. Donc Salo, je pense, fait référence au célèbre film de Pasolini, qui est quand même une sacrée claque. Alors, si le groupe Salo est aussi puissant que le film Salo, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc ça, c'est le lundi 6 mars 2023 à l'épicerie moderne. Et puis, il va y avoir d'autres concerts, et un particulier qui me tient à cœur. Je vous ai déjà parlé, d'ailleurs, ils vont venir à l'épicerie moderne au mois d'avril, je vous ai parlé d'un groupe qui s'appelle Astéréotypie, qui est vraiment atypique, avec ce fameux disque consacré à Brad Pitt, qui ne vit pas dans la Drôme. Et voilà. Et ces Drômois, eh bien, en fait, sont issus ils sont autistes, voilà, mais j'aime pas désigner les gens comme ça. Et franchement, c'est pour moi un des albums de l'année, c'est une grosse claque. Donc ça sera l'épicerie moderne en avril. Mais pourquoi je parle de ça, c'est qu'en amont, il va y avoir un autre groupe ou conglomérat de gens qui s'appelle Wild Classical Music Ensemble. Ce sont des Belges, d'accord, qui, eh bien, eux aussi souffrent peut-être d'une pathologie, alors peut-être pas autistique, mais d'autres pathologies. Et en fait, ils vont être accompagnés d'un guitariste assez mythique qui s'appelle Lee Reinaldo, qui était le guitariste d'un groupe mythique qui s'appelle Sonic Youth. Et voilà, c'est un guitariste qui joue très fort lui aussi. Et donc, ils viennent de sortir un album qui a été enregistré en 2019, mais en une seule prise, en fait, de l'improvisation totale. Et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel déjà sur ce disque. Et j'ai très très hâte, en fait, de voir ce que ça donne sur scène, parce que je me doute que ça va être compliqué de reproduire une improvisation, donc ça va être une autre improvisation sur scène, et ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc le Wild Classical Music Ensemble et Lee Reinaldo, pardon, joueront le vendredi 17 mars 2023 sur la scène de l'épicerie moderne. Et puis peut-être pour terminer, parce que ça me tient à cœur, ça sera la fin du mois, le lundi 27 mars. Alors là, c'est peut-être moins bruitiste. C'est un groupe des années 90, moi, qui me fait vraiment énormément plaisir de les retrouver. Un groupe s'appelle The House of Love, qui avait sorti un album mythique dans les années 90 et qui avait joué au Transborder et puis au Truck. Feu cette salle du Truck et puis dans d'autres cafés-concerts de la ville de Lyon à leur tout début. Donc ce sont des Anglais. Alors il reste que le chanteur Guy Chadwick au sein de cette formation, mais ils viennent de sortir Enfin, il vient avec d'autres musiciens de sortir un nouvel album. Alors, c'est peut-être un petit peu passéiste. Voilà, ça n'a pas la même saveur des années 90. Mais quand même, je suis sûr que sur scène, ça va être sacrément fort de retrouver des chansons comme Beatles and the Stones, qui a été un des titres phares, ou Christine, qui a été un des titres phares dans le passé. Donc voilà, ça sera le lundi 27 mars 2023, The House of Love à l'épicerie moderne. Donc vraiment, le mois de mars, ça va être plutôt un mois de mars à guitare, avec un peu de distorsion, un peu de bruit, entre guillemets, et je pense que ça va décrasser, comme disait un journaliste de RTL dont j'ai oublié le nom, ça va décrasser les cages à miel.
Très voilà. Bien, merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'on peut avoir au moins un extrait peut-être, parce que tu nous as évoqué beaucoup de titres. C'est vrai que c'est toujours intéressant en fait pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui pourraient peut-être écouter un petit extrait.
Eh bien, on écoutera un extrait d'House of Love, hein, de leur dernier album qui est sorti il y a 2 mois. Et donc, on vous fera écouter ça.
Merci beaucoup, Guillaume. Nous terminons, comme chaque semaine, avec nos coups de cœur. Gaëlle, quel est ton coup de cœur cette semaine ?
Alors, mon Gédéon de la semaine est une collection de chefs-d'œuvre primés au Festival de BD d'Angoulême depuis 50 ans. Fin janvier 2023, les éditions Casterman ont lancé des rééditions dans un plus petit format d'albums cultes pour lesquels il vous faudra débourser seulement 12 euros pour les obtenir. Saluons l'initiative qui permet aux BD-files d'avoir accès à un tarif découverte pour l'acquisition de BD. En effet, la BD bénéficie rarement de rééditions telles que les romans les connaissent avec le livre de poche qui, lui, rappelons-le, vient de souffler ses 70 bougies. Petit panorama des rééditions de Casterman. Depuis Corto Maltese, la balade de la mer salée d'Hugo Pratt, récompensé du prix de l'œuvre étrangère d'Angoulême en 76, jusqu'à Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff, prix du public d'Angoulême en 2020, tout en passant par la trilogie Nicopole d'Anki Bilal, grand prix d'Angoulême en 87, et mon coup de cœur, Kiki de Montparnasse de Catel et Bocquet, prix essentiel d'Angoulême en 2008. Le choix est vaste et le plaisir toujours renouvelé. Plus d'informations sur casterman.com.
Ah, c'est intéressant que tu évoques le livre de poche. Sais-tu combien de livres de poche se sont vendus en France cette année ? Eh ben, 81 millions de livres de poche. Donc non seulement c'est un succès extraordinaire depuis les années 70, mais effectivement ça permet à des millions de gens de lire chaque semaine, chaque jour, des livres accessibles. N'oubliez pas en fait qu'un livre de poche c'est entre 7 et allez, 9 euros maximum. Donc n'hésitez pas à acheter des livres de poche, il y en a dans toutes les collections. Et je trouve que c'est génial cette initiative, parce que finalement c'est extrêmement rare dans la bande dessinée, n'est-ce pas Gaëlle ?
Ah non, tout à fait, et je trouve que c'est bien qu'il y ait cette possibilité d'acheter à des prix découvertes des bandes dessinées, parce que la bande dessinée c'est un budget quand même.
Absolument, et c'est vrai que finalement c'est un peu le poche, entre guillemets, hein, et c'est bien ce rapprochement que tu fais, si je peux me permettre. Guillaume, alors cette semaine...
Alors cette semaine, j'ai pas mon coup de cœur, c'est un livre. Alors il y a peu de temps, dans une autre émission, j'avais évoqué la somme extraordinaire de 3 historiens, 2 Allemands et un Français, Tal Brutmann, une somme consacrée aux photos retrouvées à Auschwitz et qui était vraiment une analyse très pertinente de ces photos. Et là, je vais vous parler d'un livre assez incroyable. Alors quand je vais vous lire le titre, peut-être que vous serez un petit peu choqués. Donc 999, donc 3 fois non en allemand, la dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar. Alors, dit comme ça, on peut se dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un Américain, Jerry Stoll. Alors, Jerry Stoll, c'est, on pourrait dire, un auteur gonzo, un petit peu. Il adore Hunter Thompson, des gens comme ça. Et c'est quelqu'un qui, il faut le dire, a une vie un petit peu dissolue, drogué, alcoolique, voilà, très dépressif, et qui écrit, en fait, des livres très, très drôles, en fait, sur sa dépression. Et là, eh bien, il nous raconte qu'en septembre 2016, eh bien, il touche le fond. Et son éternelle dépression est au plus haut, sa carrière, sa vie personnelle au plus bas. Donc découvrant grâce à son improbable alerte Google le mot holocauste que des voyagistes proposent des circuits sur les lieux de la tragédie de la Shoah, eh bien il va décider de s'inscrire et donc d'aller sur ces lieux-là, mais comme un touriste lambda. Et donc évidemment il nous raconte ça et c'est absolument hilarant de lire ce livre qui est teinté d'un humour vraiment très très noir et qui me rappelle un film, il me semble, mais qui est assez ancien, un film qui s'intitulait Et puis les touristes, qui mettait en scène en fait un jeune étudiant qui justement allait à Auschwitz pour faire le guide à Auschwitz. Et donc c'est vrai que c'est très étrange parce que quand on est allé une fois ou deux dans sa vie à Auschwitz-Birkenau, surtout à Birkenau, on voit effectivement des palanquées de touristes, des gens qui font des selfies, qui prennent en photo ces lieux. Et c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Moi, la première fois que j'avais vu ça, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont un petit peu hors normes, un petit peu malades mentaux, en fait, de faire ça. Et puis, avec la réflexion, je me dis que finalement, de prendre des photographies, alors certes de soi-même sur ces lieux-là, eh bien, c'est garder une trace aussi du lieu et c'est permettre aussi de montrer à des gens qui ne sont pas venus, eh bien, ce qui est arrivé ici, peut-être. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu, finalement, le livre sur les photos d'Auschwitz. Mais, en tout cas, ce livre qui est paru aux éditions Rivage, 999, La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar de Jerry Stoll. Moi, je vous le conseille parce que franchement, on rigole beaucoup. Et rigoler de la Shoah, voilà, c'est quand même pas une entreprise très facile.
Peut-on rire de tout, finalement ?
Oui, voilà. Mais en fait, oui, je crois que cet auteur, vraiment...
En tout cas, se l'autorise. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Guillaume. Ça nous donne très envie, en fait, de découvrir cette vie dissolue, finalement, de ce Jeremy Stoll. Je vais aller voir ça de plus près. Pour moi, ça sera théâtre cette semaine et théâtre à Oullins. La programmation cette saison au Théâtre de la Renaissance est pleine de bonnes surprises. J'avais envie de vous parler de L'Enfant Océan de Frédéric Sontag, qui adapte le roman éponyme de Jean-Claude Mourleva. L'Enfant Océan, il s'agit d'une enquête policière, un road movie, la fuite en avant de 7 enfants vers l'océan. Dans une famille très pauvre, 7 jeunes garçons subissent l'autorité et la bêtise de leurs parents. Un soir, le plus jeune, Yann, surprend une conversation terrifiante. Le lendemain, il convainc le reste de la fratrie de s'enfuir dans la nuit. Commence alors une fugue épique et rocambolesque vers l'océan. La police se lance à leur poursuite et leur disparition fait la une des journaux. Au gré des rencontres de nos 7 jeunes héros, les indices s'accumulent et chaque personnage va témoigner de leur incroyable voyage. L'assistant social, le routier qui les prend en stop, le gendarme alerté de leur disparition, la boulangère qui leur offre du pain, bref... Frédéric Sontag adapte avec malice le roman éponyme de Jean-Claude Mourleva, lui-même inspiré, vous l'avez compris, du Petit Poucet de Charles Perrault. 5 comédiens interprètent la vingtaine de personnages évoluant autour de Yann, incarné par une marionnette, comme pour signifier sa singularité. Sur scène, des projections vidéo et un décor mural transforment cette petite odyssée fougueuse en une grande épopée initiatique. Attention, très peu de dates pour ce spectacle au Théâtre de la Renaissance d'Oullins, les vendredis 10 et samedi 11 mars seulement. Autour du spectacle, Même pas mort rencontre avec l'auteur à l'issue de la représentation le vendredi 10 mars. Philo Kids, oui absolument, vous avez bien entendu, à l'issue de la représentation du samedi 11 mars. Les récréations avant et après les représentations gratuites en accès libre. Visite du théâtre en langue des signes et parcours signé samedi 11 mars à 14h. Pour en savoir plus, théâtredelarenaissance.com, spectacle L'Enfant, Océan. Moi, j'ai adoré cette idée et je sais que Frédéric Sontag va faire des merveilles avec ce conte, finalement, du petit Pousset qui a marqué toute notre enfance. Je mettrai un petit teaser sur le site de l'émission et vous pourrez découvrir de quoi il s'agit. Merci beaucoup et bonne semaine. À la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Oh, 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 oh.